des sujets qui vous interpellent. Voici Jean-Luc Mongrain.
Évidemment, nos voisins du Sud sont à 4 mois d'une élection générale. Et moi, en tout cas, de mémoire, je n'ai jamais vu un président américain faire parler de lui ici dans les médias canadiens quotidiennement, comme c'est le cas depuis l'élection de Donald Trump, qui a surpris plusieurs, pas besoin de refaire l'histoire. Il a surpris, il a été élu contre même son parti, malgré son parti. Et il a gagné les élections alors que personne ne le voyait là. Eh bien, voilà que maintenant, il se prépare à rencontrer l'électorat pour un autre mandat. Est-ce que ce sera possible? Est-ce que ce sera vrai? Il faut en parler avec John Parizella, qui est professeur invité au CIRIUM, ancien délégué général du Québec à New York et à Washington, et conseiller spécial chez la firme nationale, mais d'abord et avant tout, un gars qui suit la politique américaine et qui connaît ça comme le fond de sa poche. Bonjour, John Parizella.
Bonjour, Jean-Luc. Ça va bien?
Ça va bien. Merci. Vous-même?
Très bien, merci.
Good. Là, on est dans quelque chose d'assez particulier. On est presque dans le dernier droit de la campagne électorale du côté américain. On s'y prépare, c'est le 1er novembre aux 4 ans. Est-ce que Trump a des chances de l'emporter? Lui, il prétend que oui. Il a même déclaré, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, écoutez, il va se reproduire ce qui s'est passé il y a 4 ans. J'étais pas supposé de gagner, j'étais pas supposé d'être élu. Tout le monde disait Hillary Clinton va passer, puis c'est moi qui ai passé, puis c'est ça qui va se reproduire encore en novembre prochain. Qu'est-ce qu'on réagit comment à ça?
Bien, c'est clair que si on avait eu la conversation à la mi-février, j'aurais probablement dit que ses chances étaient entre 60 et 70 % parce qu'une bonne économie est le meilleur remède ou le meilleur programme, on peut employer le terme, pour une réélection d'un président. Comme ça, un président qui a une bonne économie après un terme, généralement, à moins qu'une question de corruption, devrait se faire réélire. Mais là, on est dans une situation où la pandémie, ensuite, il y a eu des tensions raciales depuis à peu près une dizaine à peu près un mois. Il est clair que M. Trump va être jugé sur sa performance. Et sa performance, ça laisse à désirer. Il semble être plutôt en réaction aux deux crises que je viens de mentionner. Et l'économie, qui était son grand atout, même si on ne peut pas le blâmer pour cette récession qu'on vit, puis à cause de la pandémie, etc., il reste quand même que la reprise va être beaucoup plus lente que prévu. Et on ne sait jamais si une deuxième vague, elle risque d'être encore plus lente que prévu. Donc, dans les deux, quand on compare Trump à 2016, où il était, vous l'avez bien décrit, le président non conventionnel, il est maintenant le président sortant. En d'autres mots, il y a une performance, il n'y en avait pas avant, c'était l'espoir, le changement, les politiques, il raillait beaucoup contre la classe politique qui était contestée. Les Américains n'étaient pas contents, des années d'Obama, il y en a qui ont été déçus, il y en a qui pensaient que ça pourrait être plus marquant. Donc, le net-net de l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, je dirais que ses chances sont au mieux 50-50 à cause du fait que M. Biden, on connaît que M. Biden, des fois, peut être gaffeur dans sa campagne. On ne sait jamais si une petite reprise au mois de septembre que M. Trump peut exploiter à sa faveur. Mais au moment qu'on se parle, je dirais qu'il est définitivement vulnérable et définitivement battable.
Quand on parle de M. Trump, on parle, lui, là, il gère, puis il parle à sa base. Sa base. Mais sa base, là, c'est aussi des Américains, ma foi, qui doivent bien voir dans ses propos, malgré qu'on puisse être en admiration devant le gars, des aberrations, des contradictions, des choses qui ne tiennent pas debout. Est-ce que sa base est à ce point embarquée avec lui qu'elle elle en perd un peu son sens critique?
Ben, sa base, si on avait à y mettre un chiffre, ça dépend de différents sondeurs et chercheurs, c'est entre à peu près entre 30 et 36-37%. Mais c'est pas suffisant pour gagner une élection. S'il y avait juste ça au moment qu'on se parle, je vous dirais, il est battu, c'est fait, il y a 10% de chance à gagner. Mais il va chercher le vote indépendant. Et il va chercher certains démocrates dans le sens que certains démocrates soit vont voter pour lui ou ils vont rester chez eux et ne pas voter pour lui. Dans la dernière campagne, il y a des démocrates qui avaient voté pour Obama, qui ont décidé de voter pour lui. Certains avaient choisi, souhaitaient M. Sanders, ils ont décidé de voter pour lui. Et Mme Clinton était beaucoup plus polarisante comme candidate que peut-être M. Biden l'est aujourd'hui. Et les indépendants semblent bouger. Puis dans les élections mi-terme, il y a environ 2 ans, on a vu qu'il y a eu un mouvement de femmes blanches éduquées qui avaient été avec lui à la dernière campagne, mais au mi-terme, ils sont allés vers les démocrates. Donc, on voit que sa base, en politique, il y a une règle fondamentale. Quand on est élu, pour être élu, il faut ajouter à notre base, il faut additionner, pas soustraire. Et M. Trump semble avoir fait une soustraction de son électorat qu'il a élu la dernière fois. Donc, on est dans une situation où il passe un mauvais quart d'heure, les deux crises que j'ai mentionnées, puis là, il y en a une qui est dans mon esprit en émergence, la question de Poutine et la possibilité qu'il aurait encouragé les talibans à tuer des Américains pour une récompense. Et ça, c'est à suivre. Ça, c'est un dossier qui commence à prendre la place dans les médias américains depuis, je dirais, 48 heures.
L'autre affaire qui, à mon point de vue, pourrait aider M. Trump, parce que je pense que tout le monde en est conscient, je ne pense pas que M. Biden, s'il se retrouve président, c'est parce qu'il aura gagné. C'est l'autre qui va avoir perdu.
Oui, en effet.
Parce qu'on s'entend, là, quand un parti aussi important que le Parti démocrate a 18 candidats potentiels pour devenir chef, c'est qu'il n'y en a pas.
C'est une observation que je suis totalement d'accord avec. Obama, c'était une course qui a commencé, il y avait à peu près de 10 candidats, pas autant que ça, mais il n'avait pas loin, puis ça a descendu à 3 ou 4. Finalement, c'est en 2. Et je peux retourner dans l'histoire pour faire les mêmes comparaisons.
Même constat.
Oui, les mêmes constats. 24 candidats à un certain moment donné, l'an passé.
Hein,
on parlait de 24 candidats. Et malheureusement, M. Biden arrive, puis là, je ne veux pas faire de l'âgisme, mais il arrive quand même à 78 ans. Il ne peut même pas lui-même dire qu'il va faire un autre terme. Il ne s'engage pas à dire qu'il va faire un autre terme. Donc, ça coule l'histoire, parce que il va choisir une femme, va devenir très important, peut-être plus important que toutes les autres candidates ou candidats à la vice-présidente l'ont été dans l'histoire. Parce que les gens vont voir en cette personne une personne qui pourrait assumer la présidence. Donc, il est clair qu'il est en train de faire un choix. Il va être très judicieux. Et moi, je prédis de plus en plus qu'il risque de même faire d'autres choix. Il risque de dire qui va être son procureur général, puis il risque de dire qui va être son secrétaire attaché à l'économie. Donc là, ça veut dire que M. Biden va présenter une candidature, même s'il est un candidat très traditionnel, il risque de présenter une candidature un petit peu moins traditionnelle.
Dernière question. En Russie, on est en train de faire un référendum pour pouvoir accorder à Poutine de demeurer président russe jusqu'en 2035-2036. J'ai entendu Trump dire, écoutez, moi, si l'élection est trop serrée ou si j'y trouve des incongruités, je vais rester. La Constitution américaine permettait ça?
Non. Non, okay. Premièrement, ils ne peuvent pas changer la date de l'élection à moins que le Congrès décide de le faire, mais dans la Constitution, c'est l'amendement 20 de la Constitution, le président qui sera élu à l'automne doit assumer son rôle le 20 janvier. Donc, si M. Trump perd, il va être obligé de partir. Si M. Trump gagne, bien, il va être assermenté, mais il est limité par, je crois que c'est le 25e amendement à 2 termes.
OK, donc, parfait.
On n'est pas en Russie.
Phew. Merci beaucoup, John Parizella, de ces lumières. Bye-bye.
Avec grand plaisir.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Bye-bye. Marie-Claude.
Salut.
On parle de quoi?
Ben là, moi, j'allais juste rajouter à ça. Ça n'a pas eu l'air de le déranger que Hillary Clinton avait des millions de votes de plus que lui à la dernière élection.
Non, non.
Alors, imagine si c'est ce qui se passait. Il essaierait par tous les moyens possibles.
C'est sûr qu'il va s'asseoir, là.
C'est clair.
Mais il va s'asseoir sur Twitter.
Mais effectivement, la Constitution... Je pense qu'il y en a qui se battraient un petit peu là, pour dire, écoute, on arrête ça.
Alors à 15 heures.
C'est sûr qu'on revient sur l'obligation du masque dans les transports
Quelle
en commun.
Quelle obligation?
Dans les transports en commun.
Du 27 juillet.
Oui.
C'est obligatoire, mais pas de suite.
Pas de suite.
C'est pas urgent, mais c'est bien obligatoire.
À Toronto, c'est dès le 2 juillet. 2 juillet, obligatoire. Et puis, eux veulent que ce soit obligatoire dans tous les commerces. OK, c'est là que ça s'en va en Ontario. On va parler à quelqu'un en France parce que tu sais qu'à Paris, c'est 135 euros d'amende si tu ne portes pas le masque dans les transports en commun. OK? Là, on n'en est pas là. On veut se fier sur la bonne foi des gens.
Bien sûr.
La bonne volonté des gens, tout ça. Ensuite, on va revenir sur ce drame à Gatineau, le petit bébé retrouvé.
Incroyable.
Ça, moi, encore je regarde une fois, ça. Mais... ça n'a pas de bon sens. Ça me met à l'envers. Donc, on va raconter brièvement, parce qu'on a très peu de détails, mais on va parler de l'impact psychologique pour la personne qui a retrouvé ce petit bébé-là et même pour les policiers qui sont arrivés sur les lieux.
Absolument.
Parce que ça crée un choc terrible. Tu sais, quand tu as toi-même des enfants, puis que tu...
Je connais un monsieur qui était policier et qui a découvert à Sherbrooke une famille complètement décimée. 4 enfants, encore le bébé dans sa chaise haute, décédé. Ce gars-là a laissé la police et est devenu un officier bon, de justice, là, mais dans l'administration.
C'est plus capable.
Mais, impossible. Il est demeuré avec cette image-là dans sa tête, toute sa vie.
Je comprends. Ça crée un choc post-traumatique, puis c'est très difficile de s'en débarrasser. On en a parlé beaucoup pendant la COVID, surtout dans les débuts, je te dirais, des gens atteints de cancer qui voyaient leur traitement retardé, leur opération, leur chirurgie retardée. On revient là-dessus aujourd'hui. On va parler aux responsables des chirurgiens à travers le Québec pour voir combien d'opérations se sont faites ou ne se sont pas faites. Et puis, on va parler à une dame qui représente la coalition Priorité Cancer pour voir on en est où là, avec les gens. Parce que ça, c'est... Écoute...
Est-ce qu'il y a eu des incidences graves de report de chirurgie?
C'est le temps qui va le dire aussi parce qu'il a retardé un traitement. Quand tu sais que tu as la maladie, que tu sais que c'est assez urgent d'agir, c'est jamais une bonne nouvelle. C'est jamais une bonne nouvelle.
Marie-Claude, on vous écoute à 15h, bien sûr, pour
J'espère
le retour à la
bien.
Maison. OK, bye-bye, Marie-Claude. Bonne fin de journée.
Bye bye, bonne fin d'émission.